Voilà, donc moi je sais pas vous, parce que mais moi ça me rappelle il y a 10-12 ans la radio, c'est bien, c'est super. Voilà.
C'est une seconde jeunesse alors pour
ouais,
toi.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Donc eh bien écoute, sur Achaïra, Christophe va nous faire des propositions, ouvrir des pistes de réflexion pour l'action.
Bon, mais sur le brillant constat et analyse que vient de faire Mickaël, je vais faire quelques propositions, hein. Quelques-unes, parce que sinon, bon, on n'aura pas le temps.
Je vais passer la nuit.
Hein. Ouais.
Juste alors, un truc, Christophe,
oui.
Il faut préciser que ce sont des propositions qui peuvent éventuellement stabiliser le système. Évidemment, hein, on va pas décliner toute l'idéologie soit marxiste, soit anarchiste, hein, mais...
Non, il faut juste distribuer les armes au peuple. C'est ça la solution. Oh, je rigole.
Alors Christophe, à toi.
Bon, alors que faire face à cette crise actuelle? Mais on peut dire quand même que c'est... Il y a une occasion qui nous est donné de penser un projet de société qui valoriserait les êtres humains, d'abord, je pense. Hein. Donc, ce qui veut dire notre vision économique. Donc, on pourrait, par exemple, démocratiser... Ouais. Ouais. On pourrait, par exemple, démocratiser la prise de décision dans l'entreprise, donner un droit de regard aux consommateurs, limiter la concentration de la propriété, réformer le financement, faire la réforme du financement par un système bancaire socialisé, relocaliser les économies, la mise en place d'une régulation et d'une fiscalité mondiale pour dissuader le trajet de marchandises sur les longues distances et une spéculation financière. Enfin, bon, il est quand même souhaitable de répartir, d'avoir une autre répartition des richesses, d'avoir une fiscalité vraiment anti-profiteur. Hein.
Ambitieuse.
Ambitieuse. On va les massacrer.
Tu te drogues pas?
Si, j'adore ça. Il me paraît quand même important de restructurer les dettes, de les supprimer, en totalité ou en partie.
Ça, après, discuter, hein. Après, si je peux intervenir là-dessus, ouais. moi, mon avis sur l'histoire de restructurer ou d'annuler les dettes, c'est une histoire de rapport de force, quoi. Entre les créanciers et les débiteurs, ouais. Quoi. Oui, c'est... Oui, non, non, mais alors, c'est... Ouais. Alors, si je peux citer juste un exemple, hein, Philippe Lebel, bon, alors c'est un peu violent, hein. Lui, il a trouvé une solution radicale, hein. Ouais. Il a tué ses débiteurs, hein. C'était les Templiers, donc il les a éradiqués, il n'y avait plus de problème de dette. Bon, voilà, non, mais...
Pour mémoire.
Sans plaisanterie, alors, c'est une histoire de rapport de force, quoi, tout simplement.
Il n'y a pas de rapport de force en ce moment.
Ah, en ce moment.
Pour inverser la tendance. Hein.
Ce que je veux dire, c'est, par exemple, on sait très bien... Enfin, moi, je suis pas un spécialiste, mais je vois, par exemple, la Grèce. Plus. On sait très bien que la Grèce ne pourra pas rembourser.
Elle pourra jamais rembourser.
La Grèce pourra jamais rembourser.
De plus en plus. Ouais. Donc, s'ils acceptent ça, c'est tout simplement pour la dominer.
Mais bien
c'est
sûr.
Maintenant, oui. la Grèce est entre leurs mains.
Totalement.
Donc, à mon avis, c'est ça. Parce que les dettes, les gens, les pays qui sont endettés ne pourront jamais rembourser.
Parce
donc,
qu'il y a les intérêts.
Si on maintient ce système de dettes, c'est pour les maintenir.
Alors, justement, en ce moment, il y a eu la création d'un comité comité sur la dette grecque. Et donc, ils sont en train de voir pour restructurer et faire des audits sur la dette grecque. Mm-hmm. Donc en vue justement d'instaurer un rapport de force et de voir de...
Mais c'est un comité indépendant, c'est le peuple grec qui se constitue.
Alors,
Je
ne sais pas vraiment comment c'est constitué ce comité, mais ils vont réévaluer, faire des audits, essayer de, d'instaurer un rapport de force et de peut-être de.
C'est clair, mais de toute façon.
D'annuler ou de.
Ils pourront jamais la payer cette dette, comme l'Argentine n'a jamais pu la payer. Voilà. Non, mais c'est...
Donc justement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Argentine, ils ont. Ils ont restructuré la dette.
Ouais. Parce qu'en plus, moi, ce qui m'énervait un petit peu dans cette histoire de la Grèce, c'est qu'on entend partout dire oui, on aide les Grecs. Et c'est pas vrai, on n'aide pas les Grecs,
non, on les étouffe.
Grecs, et puis, etc., etc.
On les étouffe.
Mais au contraire, les Grecs, eux, ils vont être plus dans la merde qu'avant.
Évidemment.
Et donc c'est ça qui ça m'a un peu énervé.
Mais je crois qu'en fait, l'enjeu, c'est de montrer à l'Irlande, au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, que le reste de l'Europe et le reste du monde ne lâchera rien, quoi, et que la dette se paye. En fait, tout l'enjeu est là, quoi. C'est que si tu acceptes de restructurer la dette grecque, indirectement, tu accepteras de restructurer la dette irlandaise, la dette portugaise, etc., pays, etc., etc., etc. L'enjeu, il est là.
Mais il y a aussi le dogmatisme de la BCE, qui sont sur un...
La Banque Centrale Européenne.
La Banque Centrale Européenne, ouais. Qui sont vraiment dans une idéologie...
C'est une orthodoxie libérale
stricte. Et ils veulent absolument pas revoir leur plan.
D'ailleurs, si je peux rebondir sur ce que tu dis, hein, on voit très bien aujourd'hui qu'en Europe, il y a une discorde politique profonde. Hein.
Alors ça, c'est c'est le problème majeur pour moi.
Ah ouais.
C'est en fait, il n'y a pas d'Europe politique.
Hein. Non.
Actuellement, il n'y a pas. C'est un ersatz d'Europe politique.
Enfin, ah, totalement.
Une cacophonie, une mésentente.
C'est pathétique.
Ah, mais non, il y a une entente sur le système économique.
Par contre, alors.
Comme ça marche.
Comme ça marche.
Comme ça fonctionne. Ça, voilà, tout.
Moi, je suis pour la Gironde libre.
Oui, puis de toute manière, les États se comportent comme des entreprises, donc voilà, ils gèrent à partir de là. Ce sont une assemblée d'entreprises qui se rassemblent et qui partagent des bénéfices.
C'est ce que je te disais l'autre jour, Philo, par un mail interposé. Mm-hmm. Je te disais, voilà, quoi attendre de mieux qu'un système qui n'a prôné au fond que la compétition effarouchée. Voilà, on peut rien attendre de mieux. Je veux dire...
Donc, si c'est une entreprise, nous, on a une arme, c'est la grève.
Oui.
C'est ça.
Alors après, la grève appliquée aux États.
Écoute, moi, si je peux parler d'une expérience qui n'est pas si lointaine que ça, sur le mouvement des grèves, là, sur les retraites, là. Le dernier mouvement de grève sur les retraites, quand on est allé bloquer les zones industrielles, c'est là qu'on a senti que ça faisait flipper vraiment le gouvernement et le MEDEF, quoi. C'est à ce moment-là, hein, on a senti une nervosité, vraiment, ça a été net, quoi. Donc effectivement, la clé, elle est là, quoi. C'est dans la production, quoi. Si t'arrêtes tout, le système s'effondre, quoi.
Ils aiment pas ça, c'est pareil quand tu fais des faux billets aussi, ils aiment pas ça.
Ouais, ça c'est clair.
Sauf que là, il faudrait qu'il y ait une coordination au niveau justement, régional dans le sens éventuellement européen, parce qu'en fait, les choses se décident plus
au niveau européen.
Ouais, c'est ça. Donc effectivement, là, il faudrait qu'il y ait une contestation qui soit beaucoup plus globale, quoi.
Pardon.
Non, vas-y.
Non, mais je sais pas, on a des exemples éclatants de discorde. Là, dernièrement, c'est la Finlande qui veut des garanties sur la dette grecque, quoi. Il y a, je crois, c'est Standard & Poor's ou Fitch, une agence de notation qui tire la sonnette d'alarme. Attention, ça va faire capoter tout le système, quoi. Et puis des exemples comme ça, pareil, sur les eurobonds, ce qu'on appelle les eurobonds, là, c'est la France qui voudrait que la BCE... diffuse des eurobonds, en fait ça reviendrait à mutualiser la dette entre tous les États européens, quoi. Ce qui serait peut-être une solution d'ailleurs, hein, une solution de solidarité au fond. L'Allemagne ne veut pas en entendre parler du tout, mais du tout, quoi. Et voilà, et des exemples comme ça, on pourra en citer à l'appel, quoi.
Ouais, bah, ce que vous disiez, c'est une logique entrepreneuriale, donc
c'est ça, c'est
n'aide pas la concurrence.
Non, c'est surtout pas, quoi.
Sans compter que les banques françaises ont des intérêts quand même à la dette grecque.
Hein, donc, tout à fait. Bon, en tout cas...
Donc, je pense qu'il faut rompre avec l'Europe néolibérale.
Bon, moi après, j'ai deux, trois propositions, je pense très rapidement, qui émanent de Paul Jorion. C'est un anthropologue économiste belge. Belge, ça existe.
Très bon blog.
C'est ce gars-là, en 2005, il a flairé la crise des subprimes. Il avait annoncé... comme ils disent dans le milieu de la finance, il faisait partie du Big Four. Le Big Four, ce sont les quatre économistes qui ont anticipé la crise des subprimes. Il a fait partie de ces gens-là et c'est un gars qui est reconnu maintenant pour ça. Et donc il a fait quelques propositions.
Il est wallon ou flamand ?
Il est flamand. Et donc... Donc il fait quelques propositions moi qui me paraissent intéressantes, mais c'est toujours pareil, c'est pour stabiliser le système, hein, on n'en est que là, quoi, hein, tu vois. On n'est pas encore à un système solidaire, etc. Hein, okay. Donc il proposait de simplifier les choses, notamment d'interdire le fonctionnement de la bourse. Voilà, alors lui il propose en fait que la bourse fonctionne une fois par mois, une fois par semaine, une fois par mois éventuellement, et parce qu'il pense qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer une entreprise à la nanoseconde. Et à mon avis, il a tout à fait raison, quoi. Et c'est un système qui permettrait dans l'immédiat d'arrêter toutes ces rumeurs qui peuvent atteindre des entreprises.
Il paraît qu'il y a des entreprises qui mettent leurs ordinateurs. Qui installent leur bureau le plus près possible de la bourse pour que les fils des ordinateurs soient le plus près possible pour réagir à la microseconde avant.
Mais c'est ça, mais où est-ce que tu as eu cette info
Ils ont parlé à la télévision, j'étais bleu, mais c'est des fous. Et il paraît que c'est vraiment jusque-là. Quoi.
Non. Il faut savoir que le système boursier est contrôlé à 80% par des machines. Qui travaillent sur des algorithmes, voilà, et c'est des choses très stéréotypées. C'est pour ça qu'on voit des mouvements erratiques en ce moment, des mouvements de baisse terribles, moins 5%, moins 10%, quoi, et des mouvements de hausse, ce sont des rebonds techniques, tout simplement. Hein.
En fait, Paul Jorion, il prend un retour à une économie réelle.
Oui, effectivement, voilà. Ouais. Par exemple, il souhaiterait que... il souhaiterait que le crédit soit moins utilisé et il propose plutôt au moins des augmentations de salaire, quoi. Que les gens vivent décemment avec le fruit de leur travail, quoi. Voilà. Il propose aussi une dernière proposition, le Bancor. C'est Keynes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des relances keynésiennes de Roosevelt. Et bien c'est Keynes. Voilà, c'est un économiste anglais de gauche. Entre guillemets, dit de gauche, c'est un anglo-saxon. Hein. Et donc,
comme DSK.
Qu'est-ce qui t'a fait DSK, Fernando?
À moi, rien.
Et donc, il propose de remettre sur la table le Bancor, c'est la monnaie internationale, voilà, qui serait en fait évaluée de manière démocratique par les pays du monde entier, voilà. Au lieu que ce soit le dollar aujourd'hui qui il n'y a que les Américains d'ailleurs qui décident s'ils impriment de la monnaie.
L'eau de l'art, c'est un peu la monnaie des Monopoly. Hein,
ah ouais, tout à fait. Ouais,
bon. Voilà. Un petit mot de conclusion. On va suivre.
Je sais pas, les invités. Bon. Allez, petit morceau de musique.
Allez, un morceau de musique. C'est le bleu. Réfugiés dans l'état policier. Et oui, c'est reparti sur Achaïra. Bien là, nous passons une petite chronique, la chronique raisonnable numéro 2 du 25 juillet. Donc, je vous rappelle que cette nouvelle chronique d'Achaïra doit nous apprendre les rudiments de l'autodéfense intellectuelle. Et donc, le principal support de la chronique, c'est l'ouvrage de Baillargeon, Petit cours d'autodéfense intellectuelle, ouais, qui a été publié chez Luz en 2006. Excellent. L'objectif de la chronique, c'est apprendre à soumettre à la critique les informations reçues, les soumettre à notre raisonnement, afin de prévenir les manipulations et de démonter les croyances, afin que chacun puisse faire sienne la pensée critique et contrôler les peurs avec lesquelles les pouvoirs veulent nous manipuler. Être libre, c'est ne plus avoir peur et être responsable de sa vie. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble la question du langage et les outils de la pensée critique. Normand Baillargeon lui met Confucius en exergue avec cette phrase « Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté ». Nous devons voir que le langage est un outil puissant qui peut s'avérer une arme redoutable. Nous pensons à George Orwell, l'inventeur du concept de novlangue, langage qui permet de dire entre autres que l'esclavage c'est la liberté. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est assez Boileau dans sa poétique. Il faut faire preuve d'autant de vigilance à l'endroit des mots que ceux qui les utilisent efficacement pour nous convaincre, nous tromper ou nous endoctriner. Naïvement, nous pensons que les mots désignent des objets du monde que nous pourrions autrement pointer du doigt. Ce n'est pas aussi simple, bien des mots n'ont pas de référent. Ils sont abstraits, imprécis, vagues ou changent de signification suivant le contexte. D'autres mots réifient, c'est-à-dire ils déshumanisent, ils transmettent des émotions. Alors on va distinguer entre la dénotation des mots, les objets, les personnes, les faits, les propriétés auxquelles on se réfère, et leur connotation, c'est-à-dire les réactions émotives qu'ils suscitent. Ainsi, deux mots peuvent dénoter la même chose, mais avoir des connotations bien différentes. Par exemple, il est bien différent de parler d'une automobile, d'un bolide ou d'un tacon. Nous parlons bien d'un véhicule motorisé destiné au transport individuel, mais avec des connotations bien différentes et des réactions émotives aussi bien différentes. Il faut donc être attentif aux mots qu'on utilise, et particulièrement dans les sujets polémiques et les secteurs contestés de la vie sociale. Par exemple, au sujet de l'avortement, le vocabulaire utilisé par les protagonistes pour se présenter pro-vie ou pro-choix. Qui voudrait être anti-vie ou anti-choix ? Que les militants parlent de fœtus ou de bébé, ce n'est pas innocent non plus. Pensez aux employés de telle société que l'on appelle des associés ou des collaborateurs. C'est une des propriétés du langage de pouvoir induire un auditoire en erreur. Avec l'emploi d'euphémismes, ces mots qui servent à masquer ou minorer une idée désagréable en s'y référant par un mot aux connotations moins négatives. Ici, une petite page d'humour patronal. Ne dites pas travailleur, ça désigne quelqu'un qui agit et qui fournit un effort. Dites plutôt salarié, ça désigne quelqu'un de passif qui touche un salaire. Dans le domaine de la guerre aussi, on aura recours aux euphémismes. Voici des exemples de vocabulaire employé pour parler de la guerre depuis celle du Vietnam jusqu'à nos jours. Et une traduction de ce qui est vraisemblablement désigné pour chacun des mots ou des expressions. Perte collatérale pour un mort de civil. Centre de pacification pour camp de concentration. Lutte contre le terrorisme pour commission d'actes terroristes. Incursion pour invasion, frappe chirurgicale pour bombardement qu'on espère précis en raison de la proximité de civils, terminé pour tuer, force de défense israélienne pour force d'occupation israélienne, opération plan durci pour massacre du samedi soir, représailles pour attaque. Les mots peuvent exprimer des idées précises et claires, mais ils savent aussi être vagues et imprécis, et cette propriété des mots peut être très utile. Ainsi, on pourra affirmer que quelque chose de manière tellement vague qu'il y aura peu de chances que l'interprétation des faits ne vienne confirmer notre affirmation. Ainsi, on pourra répondre à une question embarrassante par des généralités qui n'engagent rien de précis, justement parce qu'elles ne disent rien de précis. Un journaliste, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour désengorger les urgences de Bordeaux ? Je vais mettre en œuvre un plan qui va utiliser au mieux l'ensemble des ressources disponibles pour faire face de la manière la plus efficace possible à ce grave problème. Mais encore, il s'agira d'un plan d'ensemble très novateur, s'efforçant de prendre en compte chacune des dimensions du problème en ne négligeant aucun de ses aspects quantitatifs et humains, qui, etc., etc. La langue reflète aussi les idéologies particulières de la société qui la parle, ainsi que ses transformations. Nous sommes ainsi devenus plus sensibles aux dimensions sexistes, discrimination selon le sexe, mais aussi classistes, selon la classe sociale, agistes selon l'âge, ou ethnocentriques, selon la société ou la culture, de notre langue parlée ou écrite, et nous nous efforçons de les bannir. En effet, la langue est un puissant véhicule des formes, subtiles ou non, d'exclusion ou de discrimination. Un petit test. Un homme voyage en voiture avec son fils. Un accident survient, il est tué sur le coup. On amène l'enfant d'urgence à l'hôpital. Dans la salle d'opération, cependant, le médecin déclare « Je ne peux pas opérer cet enfant, c'est mon fils. » Comment expliquez-vous cette affirmation qui est rigoureusement vraie ? La réponse est évidemment que le médecin est la mère. Notons que certains auteurs et certaines auteurs arguent que ces modes d'expression confinent parfois des excès de rectitude politique, décriés comme irritants, pernicieux, voire nuisibles. Diane Ravitch, par exemple, dénonce ce qu'elle appelle la police du langage sur les campus américains et y voit un danger pour la liberté d'expression et pour l'exploration libre de tous les sujets, de toutes les questions. Par exemple, elle rapporte un texte portant sur l'histoire vraie d'un homme aveugle ayant réussi à grimper au sommet d'une montagne et dont le texte a été déclaré offensant, parce qu'une histoire de montagne est discriminatoire envers les habitants des villes ou des régions planes, et parce que l'histoire suggère qu'être aveugle est un handicap. Dans toutes les langues, beaucoup de mots sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens. Cette propriété peut servir à produire des effets humoristiques. Par exemple, « Dieu soit loué, et s'il est à vendre, acheté, c'est une valeur en hausse !» C'est du Guy Bedos. Ou encore, quand quelqu'un vous dit « je me tue à vous le dire », laissez-le mourir. Ça, c'est Jacques Prévert. Dans ces deux cas, on joue sur le caractère équivoque d'un mot « louer » pour signifier « chanter les louanges », mais aussi pour acquérir en location. Et « tuer » veut dire à la fois « mettre à mort », mais « se fatiguer à quelque chose ». Mais l'équivoque n'est pas toujours aussi facile à détecter. Elle peut dès lors servir à embrouiller plutôt qu'à faire sourire. Par exemple, vous acceptez sans difficulté les miracles de la science. Pourquoi devenez-vous soudain si critique quand il s'agit de ceux de la Bible ? On verra en y réfléchissant un peu que le mot « miracle » est clairement employé dans deux sens différents. Faute de le remarquer, on aura l'impression que l'argument mérite une réponse. Certains pédagogues mettent au cœur de leur réflexion le concept d'intérêt. Mais ce mot est justement un mot équivoque qui peut s'entendre d'au moins deux manières différentes. Il peut en effet signifier ce qui intéresse l'enfant, d'une part, ou ce qui est dans son intérêt, d'autre part. Et il peut très bien arriver que ce qui intéresse l'enfant ne soit pas dans son intérêt et que ce qui est dans son intérêt ne l'intéresse pas du tout. Ainsi, en ne précisant pas ce qu'on entend par une pédagogie fondée sur l'intérêt, on peut avoir de nombreux équivoques et qui ne seront pas faciles à déceler. Enfin, l'amphibologie, c'est une figure de rhétorique qui permet de produire des énoncés à interprétations multiples. Ces énoncés sont parfois très drôles, c'est pour ça que je les ai cités aussi. Ils sont commis à l'insu de leurs auteurs, et en particulier dans les annonces classées, parce que les gens s'efforcent de s'exprimer avec un minimum de mots, on en a une source inépuisable. Chien à donner, mange de tout et adore les enfants. Loup superbe voilier, 20 mètres récent, avec marin confortable bien équipé. Ou armoire pour dames aux pattes courbées. Les grands titres des journaux nous en fournissent aussi. 100 policiers ont surveillé 50 carrefours dangereux qui ne l'étaient pas ici, faute d'effectifs. Les charlatans aussi savent depuis longtemps tout le parti qu'ils peuvent en tirer. Bon, je pense que là, j'en ai dit beaucoup, donc il va falloir faire une petite pause musicale. Et si je me souviens bien, c'est le vert, le 3 vert. Et pourquoi il part pas le 3 vert ?
Yeah.
Oui, bon, excusez-moi, on a débordé sur numéro 4. Donc c'était Tiffen, un vieux morceau de Fragments des Bétudes, et c'est la première fin de millénaire. Donc vous êtes toujours sur Achaïra 90.1. Donc vous pouvez encore nous joindre au 05 56 50 69 99. Et donc, je finis les deux derniers morceaux de la chronique raisonnable, en reprenant sur les mots toujours. Donc la stratégie sur l'accentuation maintenant, qui affirme qu'il est possible de changer le sens d'une affirmation, simplement en changeant l'intonation à laquelle on en prononce certains mots. Par exemple, on va partir de « on ne doit pas dire de mal de nos amis », dont la signification est claire. Mais on peut la dire en signifiant qu'on peut dire du mal de ceux qui ne sont pas nos amis. Simplement en insistant sur le dernier mot. On ne doit pas dire de mal de nos amis. Ou encore, la dire en signifiant qu'on peut dire du mal des amis des autres. On ne doit pas dire du mal de nos amis. Dans un certain contexte, on pourra la dire en insistant que si l'on ne peut pas dire du mal de nos amis, on peut cependant leur en faire. On ne doit pas dire du mal de nos amis. À l'écrit, il existe un équivalent de cette stratégie orale qui consiste à accentuer certaines parties d'un message. La publicité y a souvent recours, par exemple, en annonçant en lettres capitales, un ordinateur personnel pour 300 euros, et en tout petit caractère que le moniteur n'est pas compris dans le prix. Une stratégie voisine mais distincte consiste à ne retenir que certains passages d'un texte, qui donne ainsi l'impression qu'une chose est affirmée, alors que le texte original disait, sinon le contraire, du moins tout autre chose. Donc Normand Baillargeon, lui, il propose d'appeler ça l'éduction. Bon, il propose une critique d'une pièce de théâtre de Marvin Miller qui dit « La nouvelle pièce de Marvin Miller est un échec monumental, présentée par les producteurs comme une aventure pleine de rebondissements et de suspense, racontant les péripéties d'une expédition en Arctique. Le seul suspense pour l'auteur de ces lignes a été de savoir s'il parviendrait à rester jusqu'à la fin du premier acte de ce pitoyable spectacle. À vrai dire, le seul intérêt que présente cette pièce est son accompagnement musical, superbe et envoûtant, signé Pierre Tournier. » Et donc, une publicité retiendrait sur le spectacle, monumental, une aventure pleine de rebondissements et de suspense, superbe et envoûtant. Voilà. Et pourtant, ils n'ont rien inventé, ils ont tout pris dans la phrase. En anglais, on utilise le terme de « weasel words », littéralement des mots fouines. La fouine s'attaque aux œufs dans le nid des oiseaux, elle les perce, elle les gobe, avant de les laisser là. La maman croit à percevoir son œuf, alors qu'il n'y a plus qu'une coquille vidée. Les mots fouines font la même chose avec des propositions. On croit ainsi apercevoir un énoncé plein de riches contenus, mais la présence d'un petit mot l'a vidé de sa substance. La publicité a énormément recours à cette stratégie. L'observateur attentif en repérera un grand nombre d'occurrences. Qui n'a pas reçu d'enveloppe portant la mention « Vous pourriez avoir gagné 1000 euros !» 1 million d'euros. Mais cet usage n'est pas réservé à la publicité et il y a des expressions malencontreuses, mais aussi des usages conscients pour tromper ou mystifier. Il est aussi parfois nécessaire d'utiliser un vocabulaire spécialisé pour exprimer clairement certaines idées. On ne peut pas, par exemple, discuter de physique quantique ou de la philosophie de Kant sans introduire des mots techniques et un vocabulaire précis qui permettent d'échanger au sujet d'idées complexes. Toutefois, on peut en général donner aux néophytes intéressés une certaine idée de la signification de ces concepts et des enjeux qu'ils soulèvent. Ainsi, il pourra décider s'il veut aller de l'avant et approfondir ses connaissances. Pourtant, on a parfois l'impression que le vocabulaire employé, loin de recouvrir des problèmes réels, de permettre de les étudier et d'y voir plus clair, sert au contraire à complexifier artificiellement des choses plus simples ou encore à masquer l'indigence de la pensée. La ligne de partage entre la première catégorie et la deuxième n'est pas toujours facile à tracer. Convenons-en, mais elle existe bel et bien. Ce que nous trouvons dans la deuxième catégorie est appelé du jargon. Il existe une grande variété de jargon. En anglais, plusieurs noms ont été proposés pour les désigner. Le légalese serait le jargon des avocats. Et aux États-Unis, il y a même des groupes qui œuvrent à contrer cet obscurantisme juridique et proposent des traductions en langage courant des documents juridiques. Il y a aussi l'éducando, qui est le jargon des sciences de l'éducation. Mais personne ne semble s'être encore attelé à la tâche ardue de traduire ces textes en langage courant. De tels jargons remplissent plusieurs fonctions. Certains y voient un écran de fumée destiné à procurer du prestige à ceux qui les utilisent. Et Noam Chomsky voit aussi en partie une manière pour les intellectuels de masquer la vacuité de ce qu'ils font et justifier leur existence. Il s'agit de faire passer des choses simples pour très compliquées et profondes. Traduit en langage simple, on trouve bien souvent des truismes, le néant, voire des absurdités. Rappelons donc quelques règles simples et saines pour communiquer efficacement. Assurez-vous que vous comprenez votre message avant de le émettre. Parlez le langage des gens à qui vous vous adressez. Simplifiez autant que possible. Sollicitez des commentaires, des critiques et des réactions. Enfin, certains débats sont en fait des malentendus. Ils reposent sur l'imprécision du sens accordé à un mot qui perdure parce que chacun des interlocuteurs n'a pas la même définition pour un ou plusieurs des termes utilisés. Il faut produire une définition à laquelle on puisse s'entendre. Mais définir n'est pas chose facile. La tentation de s'en remettre au dictionnaire est légitime. Mais il faut se souvenir que le dictionnaire donne essentiellement les conventions d'une société relatives à l'usage des mots et à l'aide de synonymes. Mais en général, ces définitions linguistiques ne suffisent pas. Le recours au dictionnaire pour apprendre que juste signifie conforme à l'équité en respectant les règles de la morale ou de la religion ne vous aidera pas beaucoup pour savoir si telle ou telle pratique est juste. Il est difficile et lourd de conséquences, par exemple, de définir des termes comme terrorisme, vie, mort, avortement, guerre, génocide, mariage, pauvreté, vol, drogue. Pensez aux répercussions qui découlent d'une définition plutôt que d'une autre. Socrate conviait ses contemporains à parvenir par induction, c'est-à-dire par l'examen de cas particuliers, à une définition conceptuelle d'un terme problématique. Courage, piété ou justice, par exemple. S'agit-il du terrorisme ? Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir parler de terrorisme ? Celles que l'on met en avant se retrouvent-elles dans tous les cas où il est couramment question de terrorisme ? Et sinon, pourquoi ? Et que faut-il revoir dans ce cas ? Notre usage ou notre définition ? Une manière de procéder ancienne mais utile est de chercher le genre et la différence spécifique de ce que l'on veut définir. Par exemple, pour définir un oiseau, le genre est animal. La différence spécifique est ce par quoi les oiseaux et eux seuls diffèrent des autres animaux. Disons que ce pourrait être avoir des plumes. Essayez avec drogue, et vous verrez que ce n'est pas aussi facile. Certains appellent l'étymologie qui est l'étude des racines des mots, mais le sens qu'un mot avait hier sous sa forme originelle n'est pas nécessairement identique au sens qu'il a sous sa nouvelle forme. Ainsi le mot rôle, par exemple, provient du latin rotulus, qui désignait une feuille roulée portant un écrit. Ce n'est pas d'un grand secours pour définir le rôle. Des concepts comme surpoids ou obésité, par exemple, appartiennent à un continuum d'excès de poids. Les frontières entre le poids normal, le surpoids, l'obésité sont tracées à l'aide d'un indice de masse corporelle qui donne une définition stipulative de ces concepts, c'est-à-dire une définition de convention. Pour vous détendre, vous pouvez regarder avec profit la conférence gesticulée de Franck Lepage, ou la langue de bois décryptée avec humour. Vous la trouverez sur Internet via un moteur de recherche. Vous pouvez aussi visiter le site Scope le pavé ou tvbruit.org. Et lorsque vous écoutez, pensez à décortiquer les mots employés, qui les dit et pourquoi ces mots-là. Déjà, cette analyse laissera moins de place à l'émotion manipulatrice voulue. Alors, dans la prochaine émission, on abordera l'art de la fourberie mentale et la manipulation. De la manipulation. Donc, ce texte, vous le retrouverez sur le site Cercle Libertaire JB33.free.fr. Pense qu'on va continuer directement, en demandant, en passant la chronique, enfin, l'expérience éditoriale de Fernando, avec un morceau.
Non, tout à l'heure.
Tout à l'heure, d'accord.
C'est le premier morceau de. Et oui, donc voilà, moi j'ai été invité à cette émission. Je me suis un peu imposé d'ailleurs. Mais pour parler de la création d'une petite maison d'édition qui s'appelle le Bombix. Voilà, donc une maison d'édition qui va se spécialiser dans la poésie et donc dans tout ce qui est image, tout ce qui est plastique. Et pourquoi on a choisi ça ? Parce que c'est pas rentable, donc c'est bien.
Ah, on va reparler de la dette alors.
Non, je rigole. Mais
c'est vrai que restructurer ta dette, Fernando. Restructure ta dette, Fernando. Ou alors t'éradiques tes créanciers. Voilà.
Non, on n'a pas de dette puisque justement c'est quand on a assez d'argent pour sortir un numéro, on le sort. Voilà.
C'est fait un crédit. Voilà.
Donc oui, voilà, c'est intéressant parce que c'était dans la démarche qui nous poussait au moment où on était à la clé des ondes au niveau qu'on avait fait le label, le fanzine, etc. etc. C'était cette espèce de volonté de faire les choses nous-mêmes, donc de s'approprier d'être acteur.
L'autoproduction après l'autogestion, c'est l'autoproduction.
C'est voilà. Ça, hein. Et puis aussi sur le fait que y en a un petit peu marre de cet élitisme culturel où les artistes, les peintres, les grands poètes, tout ça. Nous, on part sur le principe que tout le monde peut être artiste, que tout le monde peut transmettre de l'émotion, tout le monde peut transmettre de la beauté. Donc un peu influencé par l'art brut, quoi. Hein, on en est vraiment persuadé. Et donc le problème, c'est de faire le pas et de s'en donner les moyens. De toute façon, quand on voit certaines émissions de télévision où il y a soi-disant des artistes dedans, je crois qu'on n'a pas de problème à en faire pareil. Hein. Donc déjà, voilà. Donc c'est parti là-dessus. Et les deux références, donc celle de tout le monde peut être artiste, donc donner sa chance aussi à tout le monde. Et puis aussi, l'autre côté, acteur, agir soi-même. Donc nous a poussé à créer ce premier recueil de poésie avec ses illustrations. Donc c'est un de mes recueils, donc c'est mon 9e recueil.
D'accord.
J'ai fait du chemin depuis la clé. Et bien, enfin, c'était le fait de. On était à l'émission de radio, on faisait le fanzine, on faisait les concerts, tout ça. Et donc en fait, je me suis aperçu que je faisais des trucs pour les autres aussi. Tu vois, je faisais des articles, on écrivait des articles sur les autres groupes, sur tout ça. On faisait des concerts, c'était pour les autres. Tu vois. Et à un moment donné, je me suis retrouvé donc à Saint-André-de-Cubzac, d'ailleurs bonjour à Saint-André-de-Cubzac, et loin de Bordeaux, loin de tout, hein, entre guillemets.
On captait la clé des ondes à Saint-André-de-Cubzac.
Très, très difficilement.
Très difficilement, ouais.
Mais bon, on a
Internet.
Il y a Internet, ouais.
Il y a Internet, oui, c'est grâce à Facebook. Hein. Et donc, voilà, donc, le fait de se retrouver là-bas, très peu de concerts, ou très peu de vie que de culture rock, et puis bon, l'âge aussi, ouais. Donc ça fait que je me suis retrouvé à écrire pour moi-même, ouais. Et à écrire des petits textes, des petits poèmes et tout ça, et puis bon, voilà, donc ça a pris, et puis maintenant il y a 9 recueils, et puis j'ai touché aussi à la peinture, et maintenant je suis devenu plasticien aussi, quoi. Voilà.
Et Fernando, Tu dis qu'il n'y a pas de culture rock à Saint-André, mais il y a Ask à côté, là. Il n'y a pas un festival à
oui,
Ask.
Oui, avec les Apaches.
Ouais, les Apaches, là. C'est...
D'ailleurs, les Apaches qui étaient venus ici plusieurs émissions.
C'est ça.
Et c'est rock, mais c'était pas très culture. Mais bon. C'était vraiment...
Ah, c'est rock.
Ils faisaient les bourrins en arrivant. C'était vraiment... Non, mais c'est bien ce qu'ils font, c'est bien.
Ouais, et puis mais c'est une bonne ambiance.
Ça, si tu veux, ça n'a rien à voir. Tu vois, le Ask, c'est une fois par an.
Ah oui.
C'est une fois par an. Ici, à Bordeaux, tu avais 4 concerts par jour. Quoi, donc, c'est plus de la même culture.
Ah. Et donc, puis, c'était pas propice à l'écriture, hein, c'est ça que tu dis.
Ah. Oui, non, mais c'est qu'on se posait pas la question. On était dans le move. On était, on y allait, quoi. C'était tous les soirs, on allait à un concert. Tous les soirs, on préparait l'émission, on se posait pas de questions. À la limite, on réfléchissait pas. On avait nos réflexes autogérés et nos réflexes de bataille, quoi. Et donc on se posait pas de questions. Et d'un seul coup, tu te retrouves dans le silence, au milieu des vignes. Tu te dis, merde, il y a quelque chose qui se passe là.
Ah, mais Fernando, voilà. T'as aussi beaucoup plus d'endurance à 20-30 ans qu'à 50 balais, quoi.
Non, non. Je tiens plus maintenant.
Je te charrie, là. Je te charrie, pardon.
Ça va, tout à l'heure, on va t'emmener.
Ma puce, je rentre pas de suite. Hein.
Voilà, donc ce recueil là qu'on vient de sortir s'appelle Partage, parce que c'est aussi un des principes de la maison d'édition, ouais. C'est que on en a marre, quoi, de qu'on pense que la poésie c'est fait pour l'élite, ou c'est fait que c'est chiant, avec les rimes, les pieds, tout ce truc là, quoi. Et que quand tu parles à, je parle à des gens, à monsieur tout le monde, entre guillemets. Et la poésie, personne n'en lit, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez dans une librairie, vous voyez le rayon poésie, il est mélangé à celui du théâtre, et il y a deux rayons, quoi. Et donc, nous, on a eu cette démarche d'essayer de rendre la poésie plus vivante, et plus à la fin, à la portée de tous, je sais pas.
D'accès populaire.
Oui, mais c'est pas... on sait plutôt, tu vois, je vois une affiche qui parle de Jacques Prévert, mais tu vois... Pour moi, Jacques Prévert, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a essayé de donner de la poésie, enfin de la rendre populaire, mais sans jamais la galvauder, en faisant de la poésie, pas en faisant des petits trucs, c'est pas un chansonnier, quoi. Et donc c'était un peu ça qu'on voulait faire, et donc avec des soirées poésie, pas de slam, hein, des soirées poésie, et pas de compétition. Hein, pas
et justement, qu'est-ce que tu penses du slam?
Je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser, parce que c'est vraiment très bien. Il y a plein de super textes, il y a une espèce de pêche, une espèce de des trucs, c'est vraiment très bien. Et puis d'un côté, je suis mal à l'aise, parce qu'à la limite, c'est même pas la poésie qui est importante, quoi. L'important, c'est l'acte. Et je trouve que ils ont oublié un peu la poésie là-dedans, tu vois. À la limite, c'est du rap, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est mon opinion, hein, je dis pas... Mais par contre, j'ai assisté à plusieurs soirées, c'était vraiment bien, hein. Vraiment bien. Mmh. Donc c'est très difficile d'être critique. Je sens quelque chose, tu vois, qui m'empêche d'adhérer à fond. Tu vois. Ouais. C'est pas, je crois qu'il faut vraiment, pour prendre la parole... Et dire la poésie dans une soirée slam, faut vraiment le vouloir, quoi. Faut avoir les tripes, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Tandis que dans nos soirées poésie, même si la personne n'a pas écrit de poème ou si jamais il sait pas lire, c'est pas grave. On lui donne un de nos poèmes, il dit ben vas-y, lis. Et puis on l'écoute tranquille. Et puis y a pas de. Et je crois qu'il y a pas ce côté partage dans les soirées slam. Il y a plutôt un côté. Enfin, je dirais pas le mot compétition parce que c'est pas ça du tout, mais je trouve que ouais, je me montre.
C'est
quoi.
Un côté aussi peut-être beaucoup plus démonstratif.
Voilà, c'est le côté je me montre, pas assez le côté partage. Ça serait bien d'ailleurs, parce que le côté je me montre, c'est bien aussi. Il faut pas non plus exagérer. C'est vraiment sympa. Ouais, tu as tes textes, tu les montres, tu les donnes, ça, c'est bien aussi. Mais je trouve que ce côté partage, il est pas assez quoi, dans les. Mais ceci dit, c'est vachement bien. Hein. Ils ont apporté du souffle nouveau à la poésie, et ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc ça m'embête de critiquer. Voilà. Donc non, c'était pas cet esprit. C'était plutôt dans nos soirées poésie, sont plutôt dans l'esprit, on partage la poésie. Ça va pas être... on va pas acclamer, on va pas... va pas y avoir... enfin, comment dire... C'est lent, c'est tranquille... Quoi qu'une fois, parfois c'est aussi mouvementé, mais bon, je trouve que ça, le mot partage, pour nous, était très important. D'ailleurs, on a décidé de sortir une revue d'art, mais une revue d'art, pas une revue critique, ou qui va, parler des mouvements artistiques, de ceci, de cela, une revue d'expression artistique. Et oui, pour prouver que à Saint-André-de-Cubzac, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Il y a des super peintres, il y a des super poètes, il y a des super musiciens, il y a de tout. Mais c'est vrai que à la limite, ils viennent à Bordeaux, quoi. Pour peindre, donc pour exposer, et il n'y a pas vraiment, c'est un peu un désert culturel, il faut le reconnaître, à côté de ça, des villes. Mais il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté internet, puisque justement, quand on est dans un désert culturel, il y a internet nous aide énormément, et on est dans le monde entier, quoi. Tu t'assois devant ton ordi, t'appuies et t'es parti ailleurs. Quoi. Ouais. Et tu rencontres des gens qui pensent comme toi, ou qui ont la même démarche que toi, et qui font des choses à des milliers de kilomètres d'ici. Et en plus, ils t'envoient ça par mail et hop, tu peux faire un recueil avec des gens. On a une personne qui vit en Égypte, une personne qui vit en Égypte, qui nous fait des poèmes, une personne qui est roumaine, qui a fait la couverture d'ailleurs du recueil. On a une personne qui est argentine qui nous a fait la maquette, et ainsi de suite, quoi. On a des peintres belges. Vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Et ça, le mieux. En plus, on peut les rencontrer après. Et c'est
Internet ça permet de partager.
Ah non, mais justement. Totalement. Ouais.
Ouais. Et donc, bon. Mais surtout que ce recueil est le fruit de partage sur des blogs.
C'est vrai. D'accord.
C'est donc, par exemple, tu vas sur un blog, tu vois qu'il y a une peinture qui est intéressante, tu dis, ah tiens, je te ferai bien un poème dessus. Alors tu lui demandes, et oui, pas de problème. Donc, hop, et elle met le poème en dessous son tableau, et puis ainsi de suite. Et donc, moi, je l'ai gardé, ces partages, d'un côté. Et puis, je me suis dit, bien, c'est une bonne occasion. Et donc, on a fait le recueil partage à travers ces partages sur Internet. Donc moi j'ai une vision très positive d'Internet. Je ne sais pas si c'est bien.
Si, non mais Internet, on le voit notamment, je ne sais pas, dans les mouvements sociaux qu'il y a eu en Tunisie, en Égypte, etc. Enfin je rebondis là-dessus, excuse-moi Fernand.
Ah, très bien.
C'est un super moyen de presque de démocratie directe, j'ai envie de dire, tu vois, ou en tout cas d'organisation dans la lutte, ça c'est évident.
Ouais. Non, mais c'est. Enfin, moi, je vous dis franchement, ça m'a permis de. Oui, de respirer, quoi. Hein. Mais franchement, ça m'a permis de rencontrer des gens, d'aller les voir. J'étais faire une expo en Belgique avec mon ami peintre de Belge, etc. etc. Enfin, par exemple, c'est une amie de Chamonix qui m'a fait faire une exposition à Marseille, etc. etc. Donc, c'est extraordinaire.
Quoi. Alors, c'est ce que j'allais te dire, Fernando. Voilà, il faut pas que ça reste virtuel, quoi.
Non, non.
Voilà,
non.
Il faut qu'il y ait l'échange, quand même, physique.
Ouais. Non, non, mais ça, je crois qu'au début, tu prends un pseudo, et puis peu à peu, tu rencontres des gens qui sont pas très intéressants, donc tu passes. Il y a tellement de choix sur tellement de choix de blogs, tellement de choix d'un site que ben, tu vas à ce qui t'intéresse.
C'est limité, quoi.
Et là tu rencontres des gens. Et puis bon, des rencontres extraordinaires. Quoi. Et en plus, des fois, tu rencontres des gens extraordinaires tout près de chez toi. Et tu les as rencontrés par internet, tu les aurais jamais vus. C'est ça qui vient.
C'est vrai.
À la limite, il y a une personne qui est en face dans la même rue que toi. Et, jamais vu, tu l'as jamais vu, et d'un seul coup tu te la retrouves sur internet. T'as de bitou avec Saint-André de Cubzac, c'est pas vrai. Et donc voilà, donc notre parler de notre.
Donc comment ça s'articule un petit peu les soirées, la revue, les.
Oui,
éditions.
Et puis il y a un groupe de chansons françaises. Enfin, je sais pas comment qualifier ça, parce que la chanson française ça veut rien dire. Johnny Hallyday aussi c'est de la chanson française. C'est un groupe qui écrit ses propres textes, ouais. Qui écrit sa propre musique et qui les interprète. Et c'est intéressant. Et
qui est Cubzaké aussi ou...
Comment?
Qui est Cubzaké? Non, qui fait partie du collectif.
Oui, qui sont à Saint-Denis de Cubzaké, qui est dans la petite communauté. Ouais. Et donc, ils font partie donc du Bombix.
D'accord.
Le Bombix, donc
c'est le Bombix, c'est pas que les éditions, quoi. Non, c'est le projet, quoi. C'est une association. D'accord.
Il y a plein de choses, il y a donc un groupe de musique, la maison d'édition, il y a les sites internet, il y a aussi auprès des écoles, auprès des centres aérés où on va faire des ateliers d'écriture. D'accord. Il y a aussi une ou deux personnes du Bombix qui font des clowns et qui vont faire des lectures chez les enfants. Et tout. Donc c'est vraiment, c'est très... Et en plus, il y a aussi le côté... comment dire, graphique, enfin, ou plastique.
D'accord,
oui. Il y a des peintres, des photographes, etc. etc. Donc, le Bombix est un collectif, en fait. Et donc, partage. C'est vraiment le mot, le maître mot du Bombix. Et ceci un peu le maître mot de mes idées libertaires. Donc, oui. C'est pour ça aussi que j'ai été à fond dans ce projet. Et ça me rappelait aussi le projet qu'on avait fait autour de On a faim.
Hein,
qui est au lieu que ce soit la musique, bon, mais là c'est la poésie.
Et c'est un projet qui est partagé par tous les membres de l'association.
Oui. D'accord. Oui. Ils sont pas tous en armes, mais proches. Oui. Il y en a qui sont écolos, les pauvres. Non, non, je rigole.
Et donc tu parles d'internet, tu parles de photos, dessins. Les auditeurs peuvent voir tout ça.
Oui. Je ne connais pas par cœur. Je connais pas par cœur. Alors donc il y a le blog s'appelle tilk.over-le6 blog.com. Tilkoverblog.com. Ça c'est mon blog.
Tilk, tu l'écris comment?
T-I-L-K. Oui, c'est le tilk de...
Le tilk
de...
je sais pas.
De Stargate. Tu connais pas Stargate?
Non.
La porte des étoiles.
Non. Ah si, oui, aussi. Ouais.
Moi, je vous raconterai ça. Les auditeurs, hein, pas...
Et le... Oui, d'accord. Et le Bombix aussi, c'est même adresse hein?
Oui. Oui, oui et non. Le groupe musical a son site, son MySpace.
D'accord. Ouais.
Il faut un truc à part.
Mais autrement, en allant sur le blog Tilk, il y aura toutes les activités de l'association Le Bon Mix.
Non.
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 Alors comment?
Non, mais il faut aller sur MySpace.
Sur MySpace.
Et puis donc voir Le Bon Mix. Et là, il y a des activités. Voilà.
Et alors donc et votre prochain agenda c'est quoi les...
Eh bien donc il y a on va sortir un recueil d'une des personnes du Bombix.
Recueil de poésie là.
Recueil de poésie. Ouais. Et puis on a donc prévu une revue qui s'appellera Partage justement, pour faire écho donc à ce premier recueil de la maison d'édition. Mais il faut dire aussi que cette maison d'édition, elle vient au bout de quelque chose, quoi. On faisait partie d'une autre maison d'édition qui s'appelle le Crébassou, qui est une maison d'édition qui, à la base, est plutôt BD, bande dessinée, et qui nous faisait donc l'illustration de nos poèmes. Et puis, bon, ben... sans se fâcher, on continue à faire partie du Crébassou, mais on a trouvé que c'était le moment aussi de faire notre maison d'édition.
D'accord. Leur expérience, vous l'avez repris à votre compte. Ouais. Et autrement dit, tout le monde peut être acteur, mais est-ce que comment tout le monde peut vous rencontrer alors? Est-ce qu'il n'y a que Internet? Est-ce qu'il y a des librairies? Est-ce que une soirée qu'on vous fait? Non.
Alors, non. Disons que le problème, c'est toujours le problème de l'argent.
Ouais.
Le problème de l'argent, c'est le problème de la distribution. Ouais. On ne peut pas distribuer un livre comme ça à un grand niveau, parce qu'il faudrait le tirer à des milliers d'exemplaires. Donc nous, on le tire, c'est 200 exemplaires, quoi. Hein. Ouais. Ce qui est déjà énorme pour nous, parce que un recueil comme celui-ci, c'est 1000 euros, quoi. Hein. Donc il faut les avancer.
Ouais, d'accord.
Voilà. Mmh. Et donc, si tu veux les distribuer partout, il faut en tirer énormément. Et donc là, c'est impossible, quoi. Donc c'est pour ça que c'est des petits... C'est un peu le même principe que les labels indépendants au début. Donc après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment sortir de l'argent des recueils vendus, hein, mettre ça de côté, et puis quand on a assez, hop, soit faire un retirage parce qu'on a vendu beaucoup, soit repartir sur un nouveau recueil. Nous, c'est ce qu'on fait généralement, on part sur un nouveau recueil.
Donc c'est les soirées poésie où les gens qui vous connaissent pas peuvent vous rencontrer, quoi, un peu.
Oui, oui, oui. Ou par internet ou par le mail. Ouais. Alors le mail c'est tchoulak@wanadoo.fr. Tchoulak d'ailleurs.
Stargate aussi, non?
Voilà, c'est la planète de Tim. Tout simplement. Oui. Parce que vous rigolez, mais c'est un peu impossible.
Des étoiles.
Oui, parce que j'ai l'impression parfois, souvent d'ailleurs, de pas être de ce monde. Tu regardes, tu dis, je dois pas être là, je suis un extraterrestre.
Mais surtout en ce moment, hein, parce que...
Tu dis, c'est pas possible.
Moi, je crois qu'on a... On doit être nombreux à avoir ce sentiment-là, parce que...
Et donc c'est...
Quand tu vois la pensée unique...
Et donc, si
c'est
j'ai
ça,
pris...
Le formatage
et si j'ai
ambiant,
pris donc ce... ce pseudo, Tilk, c'était pour ça. Quoi. C'est pour se dire, mais non,
d'ailleurs.
Voilà, je suis un extraterrestre.
D'ailleurs, les gars.
Ouais. Surtout que, bon, c'est une série B, il hein, faut pas non plus exagérer, c'est pas extraordinaire.
Fernando, mais... tu es un alien.
voilà, et j'ai un Goa'uld dans mon... D'ailleurs, c'est comme ça, tu vois. Et c'est quelqu'un, quand même, qui... ne se lave pas les mains, quoi. Il n'est pas cynique. Il est extraterrestre. Il regarde le monde qui est pourri. Il le voit bien. Mais il pourrait dire, ouais, attends, crever la gueule ouverte. Mais non, il s'implique.
Il se défausse pas.
Voilà. Et donc, c'était... Bon, enfin, je vous répète, c'est une série B, hein. Donc, c'est pas très... Et donc, moi, c'était un peu ce personnage-là. C'était, je suis pas d'ici. J'ai un recul. J'ai dit, mais ils sont barjots. Mais n'empêche que j'essaie d'agir. Et j'essaie de... Je me lave pas les mains, quoi. Mmh. Je suis pas cynique, quoi. Et donc, c'est un peu dans cet esprit.
Alors, vas-y, qu'est-ce que
Ministry, tu... le premier
Ministry.
Morceau.
Ouais. Le premier
quelque
morceau,
chose alors. Un peu plus...
Un peu péchu, là, péchu, pour la fin de soirée.
Et donc, c'est une reprise d'un morceau que vous allez vraiment reconnaître rapidement.
Ouais. On va se mettre un peu de son dans le studio, alors.
Là, il y a un blanc quand même, hein, quand même ici, hein.
Faut couper les...
We'll be right back.
peu débordé sur le deuxième morceau. Avoue que ça réveille quand même.
Ah
ben
oui,
non, c'est un grand groupe, un grand groupe.
Alors, redis-nous le Ministrion.
Ministry.
Ouais. Comme un ministère.
Voilà. Mais c'est pas amer.
Bon.
Ouais. Okay. Non, c'est un c'est groupe,
c'est le ministère de la double pédale à la grosse caisse.
Quoi?
Et moi j'avais vu un concert extraordinaire où ils sont dans. Je sais pas si vous avez vu. C'est le Dôme du Tonnerre, je sais pas dans quel film que c'est ça. Mad Max.
Mad Max.
Où ils se battent.
Le 1
Non, ils se battent à l'intérieur, il y a les gens qui sont autour d'eux.
Ah oui, oui c'est ça. Ouais, ah, c'est pas avec, comment elle s'appelle, la chanteuse.
Oui, avec la chanteuse.
Tina Turner.
Tina Turner.
Et ben moi, j'ai vu un concert où c'est un peu ça. Ils sont dedans une cage, et t'as le public qui est haut.
Et tu leur craches dessus.
C'est monstrueux. Vraiment,
c'est sauvage quoi.
Ah ouais, non, c'est
warrior.
Bon ben on va.
C'est le mot de la fin.
Ben oui, il va falloir qu'on laisse les auditeurs dormir. Parce qu'ils sont pas en vacances peut-être. Bon. Mais enfin, en tout cas, ils peuvent encore appeler s'ils veulent continuer. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Donc normalement si les comptes sont bons, ça doit faire, on va dire 15 jours, ça va faire vers le 9 ou le 10 septembre.
Attends,
je regarde mon agenda.
C'est ça ? Ah non, 15, oui, c'est 15 jours et 25, ça doit faire ça. Et Anne ou le... Le 11 septembre, c'est un dimanche. Le 10, c'est un samedi. Le 9, non, c'est le 8 septembre.
Le 10 c'est un samedi.
Ouais.
Ouais. Le 8 septembre, donc jeudi 8 septembre à 21h pétante, vous retrouvez à Chaïra, je ne sais pas si ça sera au complet, non, enfin, ceux qui pourront venir. Ah, peut-être que Adrien nous ramènera une interview de Notre-Dame-des-Landes et peut-être un dossier sur ce nouveau groupe là que l'on voit partout sur les routes Vinci. Mmh. Vinci, là, qui est apparu il y a peu de temps, en fin de compte. Moi, j'avais découvert des parkings Vinci, des autoroutes Vinci, où il y avait beaucoup de choses avant.
Au CHU de Bordeaux, ils sont en train de privatiser les parkings. Je crois que c'est Vinci. Hein.
C'est Vinci qui a eu le marché.
Ouais, c'est Vinci qui a eu le marché, donc ce sera payant pour les usagers.
Hein. Invincible. Le
parking
Et ce sont les riverains, je pense, qui seront heureux de voir leur rue envahie par les voitures des visiteurs quoi parce que je sais pas quels vont être les tarifs mais bon cas ça relance le débat sur le service public
privatisation
etc., quoi.
Et puis la logique de libérale de la concurrence dont on voit qu'elle mène au monopole
Le
monopole des grands groupes Enfin bon, on a fini l'émission, mais on n'a pas épuisé les sujets qui nous font bouger. Et donc, on espère qu'on se retrouvera ensemble parce que le combat,
continue.
C'est notre vie et il continue. Et notre vie en dépend. Allez, bonne nuit. On vous dit au revoir.
Ouais.
Au revoir.
Salut.
Au revoir les auditeurs de l'Acte des Ondes. Bisous ma puce.
Et à une prochaine.